Dis Julien.
Pourquoi est-ce que tous nos épisodes commencent par cette phrase déjà ?
Dis Julien.
Non mais sérieux.
Dis Julien.
Ouais, ok, quoi ?
Est-ce que tu sais que la démarche scientifique est l'une des plus sûres manières de produire ce qu'on peut qualifier de vrai ? Et qu'elle s'exerce notamment à travers la répétition de méthodes spécifiques jusqu'à obtenir un résultat significatif.
Je te jure que si tu me fais un quatrième dit Julien en prétendant que c'est de la science, je t'enferme avec le gamin de l'accueil petite enfance qui est convaincu que manger ses crottes de nez est un moyen de faire avancer la recherche en gastronomie.
Ouais, bon, ok. C'était pas très fin. Mais nous, en bibliothèque, on aime plutôt ça, non ? La notion de véracité. Avoir des documents pleins de morceaux de vraies informations pertinentes dedans et qui vont chambouler, bouleverser la vie des gens grâce à l'incroyable décharge de connaissances pures qu'ils contiennent.
Ce que tu me décris, ça ressemble à la fois à un truc vaguement cool et à un fantasme de zététicien fanatisé. Donc, je sais pas tellement quoi te répondre.
Et c'est très bien, car le doute fait justement partie de la méthode. Bref, je reprends. On est tous d'accord pour dire que ce qui est vrai, c'est important. Et pourtant, on est tous dans le même temps, piégés d'ambivalence quand il s'agit d'avoir dans nos collections des livres qui prônent des trucs bien évidemment faux, qu'il s'agisse de cheloues études scientifiques à base de guérison par les émeraudes.
Alors attends, je t'arrête tout de suite. Le cousin de mon oncle avait une amie qui...
Ou de théories fumeuses et racistes dans, au hasard, les bouquins qu'on se retrouve à acheter de personnalités médiatiques connues dont le nom résonne comme Zorro. Bref, au milieu de tout ça, on se retrouve fréquemment à devoir déplacer notre curseur. Et ça pose la question de savoir si c'est vraiment la véracité notre enjeu principal. Si on en suit un de nos grands textes, celui de l'UNESCO, bah pas forcément. Il s'agit avant tout de proposer un large éventail d'informations et d'idées libres de toute censure.
Attends. Ça fait 2 ans qu'on fait le podcast et tu viens de découvrir le concept de pluralité ?
Ouais, mais c'est là que ça se complexifie, parce que le même texte met aussi en avant l'importance d'être un acteur de la cohésion sociale et d'encourager le dialogue interculturel. Et moi, je sais pas pour toi, mais les personnes racisées qui rentrent dans une bibliothèque et qui voient la une de Valeurs Actuelles, qui posent honnêtement la question de savoir s'ils ne sont pas quand même un peu tous des violeurs, en plus d'être profiteurs, bah étonnamment, ils semblent peu cohésionnés socialement après. Et je te parle même pas d'encourager le dialogue.
Ouais, donc tu veux dire que la bibliothèque, c'est pas un lieu où tu peux faire se rencontrer un noir et un raciste pour qu'ils deviennent copains. C'est fou quand même, hein ? Merci la méthode scientifique, hein.
Eh ben ouais, c'est là le souci. La pluralité, c'est chouette. Et on en a d'ailleurs déjà parlé longuement. Mais c'est trop souvent un moyen habile de fermer les yeux sur le fait que notre bibliothèque existe au sein d'une communauté déjà fragilisée et marquée par tout un tas d'oppressions systémiques et que nous nous retrouvons bien souvent à renforcer ces dernières au nom d'une absence de censure. Mais de l'autre côté, se placer du côté de la véracité n'est pas forcément un curseur plus juste. Savoir le vrai, c'est faire appel à des compétences que nous n'avons le plus souvent, pas. Et à défaut de ces compétences, c'est bien souvent faire appel à des arguments d'autorité qui reflètent le plus souvent nos habitudes de classe, bien plus qu'une soudaine épiphanie de savoir.
Je suis sûr que tu es en train d'aller quelque part et qu'on y arrive, mais pas de problème, vas-y, continue de dérouler, Jamy.
Eh bien non, justement. Souviens, je t'avais dit que l'important de la méthode, c'est le doute. Comment faire quand tous nos outils sont faillibles et que nos textes fondateurs sont pleins de contradictions ? J'ai le sentiment qu'il s'agit bien souvent de nous questionner en tant qu'acteurs à la fois de la démocratisation des savoirs, mais aussi en tant que membres d'une communauté, et de faire doucement le tri de ce que nous sommes et de nos a priori.
Eh ben, merci d'avoir écouté cet épisode de Deux connards dans un bibliobus. Pour résumer le discours de ce mois-ci, réfléchissez à qui vous êtes et bonne
Moins 3 points pour ironie déplacée. Parce que si la réponse est bateau, la question qu'elle soulève est fondamentale. L'absence de pensée philosophique claire dans la constitution de nos collections fait de nous, dans nos individualités et dans nos préjudices, des êtres investis d'un pouvoir qui nous dépasse clairement. Alors posons la question autrement. Comment ne pas devenir d'immondes connards snobs ?
Ouais, mais alors du coup, là, ce dont tu parles, moi, ça me fait penser directement à la grande thématique. On l'a un peu oublié parce que là, le seul buzzword de ces derniers mois, c'est l'IA. Mais pendant longtemps, notre grand sujet central, le sujet de la nation, c'était les fake news et la lutte contre les fake news. Mais du coup, on fait quoi pour ça ?
Et ça, c'est ce que je trouve absolument fascinant. C'est le moment où, soudain, en bibliothèque, on a été investi d'un pouvoir. Tu vois, ça arrive à peu près une fois tous les 10-15 ans. Parfois, c'est quand t'as des liseuses avec 8 ans de retard. Mais parfois, tu vois, t'es vraiment devenu un élément central de la nation.
En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille.
Donc, l'OMI, ce moment incroyable où on a été soudain en bibliothèque investi d'une mission sacrée et divine, ce qui a dû un peu faire sourire vers, je pense, les documentalistes qui font ça depuis 40 ans au passage, mais bref, et ce qui a dû faire sourire un peu aussi les gens qui ont récupéré un petit fond Marianne, tu vois, ouais, hop, 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 rien dans la main gauche, rien dans la droite, et voilà. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé avec les moyens du bord à devoir dire le vrai. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, ça a été tout de suite chargé politiquement, mais d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'autour de la notion de fake news, on peut penser à des tonnes et des tonnes de trucs. Et pourtant, beaucoup de ce que j'ai vu, ça revenait quand même à essayer, en tout cas après Charlie, les attaques contre Charlie Hebdo, qui est le moment où les cordons de la bourse se sont déliés, ça revenait souvent autour de l'idée d'empêcher des adolescents d'aller faire le djihad. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, si j'ai 15 ans, que je suis par exemple arabe et musulman, j'en sais rien, et que soudain dans la bibliothèque, il y a des ateliers extrêmement subtils qui vont m'apprendre qu'en fait, il ne faut pas aller en Syrie pour tuer des gens, bah, j'ai un peu une impression de foutage de gueule quand même. Déjà.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Mais un autre truc qui est intéressant autour de ça, ça va être la manière dont, dès qu'on va faire des ateliers de MI, on va aussitôt se sentir empouvoiré de la posture de celui qui sait. On a enfin cette légitimité d'être reconnu dans cette expertise culturelle, sinon, ou en tout cas dans cette expertise des savoirs, que sinon on a tant de mal à porter. Et on se sent pour la première fois, souvent depuis très très longtemps, en possession d'une vérité qui va permettre de bouleverser la vie des gens et de dévoiler quelque chose. Mais en ayant là-dedans tout un tas de biais que je trouve absolument incroyables. Par exemple, 90% des ateliers d'EMI que je vois sont à destination des adolescents. Je parlais du djihad, mais ça va être tout le champ, par exemple, de ne faire attention à ton identité numérique sur Internet et ainsi de suite. Pas des choses inutiles au demeurant, mais en omettant, par exemple, l'angle mort assez intéressant d'une étude qui va attester que les personnes âgées publient 2,7 fois plus de fake news sur Internet que les adolescents.
Est-ce que tu es en train de tisser un lien entre cette statistique et le fait que l'électorat d'Emmanuel Macron est à 66-67% constitué de plus de 60 ans ?
Alors non, parce que ça, ce serait un discours politique.
Ah,
et
pardon,
l'EMI,
oui.
Ça ne peut pas être politique, parce que l'EMI, c'est véridique.
My bad.
Ouais, et il faut faire attention avec ça, parce que c'est ça qui est génial avec l'EMI, c'est que vu qu'on est dans le vrai, on arrête d'être dans des biais politiques. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ça permet de faire des connexions que je trouve absolument fascinantes, où moi, je l'ai par exemple vécu, où d'un côté, tu as ton atelier numérique avec Mamie Ginette, où tu viens de lui apprendre à utiliser Facebook, et elle est déjà en train d'écrire en gigantesque majuscule « Comment ça va ?» sur le mur de l'intégralité de ses contacts, que tu as eu un peu l'indécence, tu vois, de lui faire ajouter, ils n'ont pas osé dire non. Ça te fait un peu marrer parce que bon, elle est mamie Ginette, quoi. Et dans le même temps, en fait, c'est à l'adolescent de 15 ans que tu vas apprendre que vraiment, il y a des pédophiles partout sur Internet et qu'il faut se méfier. Et c'est ça qui est embêtant, je pense, aussi là-dedans. C'est que, en fait, en ayant ces énormes biais-là, on passe un peu pour des branquignoles. Et ce qui est embêtant d'ailleurs, parce que c'est pas des missions inintéressantes au demeurant. Je veux dire, on a déjà fait un épisode sur le numérique précédemment.
Ouais.
Dire que c'est important d'avoir des gens qui produisent de la littératie numérique pour les gens et que les adolescents, évidemment, sont un public important, bien sûr. Mais autour de l'EMI, ne pas voir ce qui ont été d'entrée de jeu, les enjeux qu'on mettait derrière et qui sont, eux, évidemment, politiques, bah, c'est compliqué. Et du coup, je trouve ça très compliqué d'avoir ton zététicien fanatisé qui va t'expliquer que c'est beau enfin parce que vous faites un truc qui n'est pas du militantisme mais qui parle du vrai, qui parle de ce qui est la pureté en fait de l'esprit humain, et ben ça me fait quand même doucement sourire.
Ouais, tu m'étonnes. Tu balançais une vanne tout à l'heure pour dire putain, pour une fois on est pertinent et tout ça, une fois en 15 ans on a de la thune et en plus on se sent investi d'une mission. Mais parce que ça correspond, je pense, à un truc qu'on avait pu sentir venir avec un peu pas une réécriture du métier, parce que finalement ça a toujours été là, mais je me souviens de mes études en métier du livre où vraiment on nous présentait le truc en mode vous êtes bibliothécaire, c'est-à-dire que vous êtes des professionnels de l'information, et avec beaucoup d'emphase sur ça, en mode les bouquins, c'est bien, mais attention, c'est pas tout à fait ça le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est pas ça. C'est surtout pas les publics, hein. On veut pas déconner. Ils nous ont pas dit des trucs qui pouvaient servir, mais ils nous ont serinés.
Ça aurait été si punk.
Ça aurait été si punk. Non, ils nous ont serinés avec le côté, vous êtes des professionnels de l'information. Et donc là, tout d'un coup, l'information, ça devient le truc le plus important. Et c'est là aussi où c'est rigolo avec l'IA, hein, parce que tout d'un coup, on se retrouve à être au carrefour des gens qui peuvent peut-être être un peu compétents sur le sujet et des gens qui peuvent tourner les choses de leur côté.
Tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on parle d'un terme qui serait celui d'humilité.
Ouais.
D'humilité du professionnel face à justement cette notion de professionnel de l'information. Et en préparant cet épisode, justement, je cherchais un peu des expériences, des papiers, de la littérature autour du décalage profond entre notre posture professionnelle, celle d'un spécialiste de l'information, et la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'en vrai, quand même, il ne faut pas déconner, on est très, très peu experts sur nos sujets. Et je regardais notamment, donc c'est assez marrant, alors là pour le coup, confession, ce n'est pas un papier scientifique, mais je me suis retrouvé à passer pas mal de temps sur le Reddit Libraries, donc bibliothèque ouais. des États-Unis, qui est quand même, à défaut d'être une source scientifique, un bon instantané des discussions du métier, et à chercher des discussions sur ce sujet, et à trouver quelqu'un qui exprimait vraiment cette opinion, alors anonyme bien sûr, disant qu'il était à la tête d'une bibliothèque, mais bon, on s'en fout, et qui expliquait que non, évidemment, on peut avoir tous les types de documents à la bibliothèque. C'est pas gênant si on a des choses qui ont des opinions complètement cheloues, ou quel que soit le problème, parce que nous, si jamais un usager vient nous voir, vu qu'on est un professionnel de l'information, même si on a des documents trop chelous, on pourra quand même le pointer vers une source sûre, en ayant derrière une méthode scientifique. Et j'étais un peu là-dedans fasciné, tu sais, ça m'envoyait un peu la vibe de « oui, bon, on a sur notre table, de, par exemple, de sociaux, 15 ouvrages qui sont clairement très racistes. Mais si jamais on voit un usager qui a des questions, on peut aller faire de la médiation et lui expliquer pourquoi, en fait, le racisme, c'est pas bien. » Parce que clairement, on est tous en plus, je pense, au quotidien, des gens capables de déconstruire le racisme en 2 minutes sur un coin de table.
Parce qu'on a aussi construit, avec ce côté, on est des professionnels de l'information, ce qu'on a construit, c'est une sorte de super compétence, en fait. Une compétence couteau suisse qui peut servir pour tout, à n'importe quelle occasion. Pas besoin d'être un expert en philosophie pour acheter des livres de philosophie parce que je suis un professionnel de l'information. Donc, je peux aller regarder le top de Philosophie Magazine et acheter les livres. Pas besoin d'être un spécialiste de la médecine parce que au
attends,
final...
Attends. Tu entends au loin ? Il y a des thésards en philosophie qui explosent. On peut attendre les détonations. Elle voilà. résonne à travers toute la France.
C'est ça, tu vois, c'est vraiment incroyable. En fait, on est des purs sophistes trop marrants, quoi. Parce que, tu vois, il y a un truc aussi rigolo, tu vois, les catalogueurs qui cataloguent des trucs dans des langues qui ne parlent pas. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, tu vois. Il y a vraiment un côté, je trouve ça incroyable, parce qu'ils peuvent faire ce taf-là, tu vois, je ne suis pas en train de le remettre en question. Mais c'est juste trop marrant de se dire, gros, tu n'arrives même pas à déchiffrer les caractères que tu lis, mais tu es capable quand même de l'indexer, de trouver, de lui donner une existence au sein de l'ensemble de la connaissance de ta base de données. C'est juste, c'est fascinant, quoi. Nos amis, les turbo-technobros qu'on adore et qui disent qu'on va être remplacés par des IA dans pas longtemps parce que bibliothécaire, machin, peut-être qu'ils n'ont pas tort sur ça, tu vois. Peut-être que le côté... la super assurance des bibliothécaires professionnels de l'information et tout ça. Ouais, peut-être que ChatGPT fait ça mieux que nous, tu vois.
C'est clair. J'ai découvert dans mes petites recherches que tu as une cote d'Eway. Alors attention, je suis désolé, c'est rare qu'on dégaine la d'Eway dans ce podcast. Donc prenez vraiment ça comme notre petit flex de l'année. 001.9 qui est connaissance controversée. Justement, parce que tu parlais de catalogage et donc tu as quand même vraiment des gens de temps en temps qui voient passer un truc et qui sont en mode non, ça c'est vraiment chelou quoi. 001.9. Et là, par exemple, je regardais, tu vois, des petites cotes et là tu pourras trouver par exemple hiver cosmique ou le trop fractal ou alors une cinquième dimension qui est en toi. Qui vont être catalogués en 001.9.
Ah mais non, ça c'est bon, la physique quantique vibratoire là, de l'université de, je sais plus où, de Montpellier ou
c'est
de Bordeaux, je sais plus, qui a lancé un master il n'y a pas longtemps et qui se sont pris des tombereaux de merde parce que oui, voilà.
Mais oui, et par contre, dans le même temps, tu auras des trucs de médecine tout aussi chelous que la cinquième dimension qui seront quand même en médecine, en bien-être.
Bah, ouais, bien sûr.
Et ce qui prouve quand même à un moment que c'est pas comme si on était là-dessus capable de nous mettre nous-mêmes des garde-fous, de faire preuve justement de cette humilité-là et de nous y tenir.
Là-dessus, on est à la fois victime de notre propre incapacité à l'humilité, notre besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé, dont on a déjà parlé 40 fois dans 40 épisodes différents. Et aussi, dans l'époque particulière, un appel de repère. Et que la bibliothèque, on peut se rappeler Macron, l'été après le premier confinement, qui dit il faut un été culturel et apprenant. Et qui dit, voilà, on va faire en sorte que les gens, les enfants, ils aillent, et les adolescents, ils aillent dans les bibliothèques parce que c'est des lieux qui sont importants, parce que c'est des lieux qui sont structurants, tout en les ayant oubliés dans le premier confinement. Mais bon, ça, on n'est pas à une contradiction près, on va se calmer. Donc il y a quand même une époque qui a besoin d'un peu de messie, de dune, tu vois, qui pourrait apporter de la stabilité de l'information, qui pourrait apporter de la véracité, qui pourrait apporter tout ça. Nous, on est extrêmement sensibles à cette flatterie.
Ok, Orsenal Gaïba.
C'est exactement ça. Mais voilà, du coup, ouais, il y a un mix un peu pas ouf qui est en train de se mettre.
Ce qui est assez marrant en plus, parce que on a une profession, on en parlait, mais qui est tellement en général en déficit de légitimité, que nos quelques petits bastions justement de légitimité comme ça, ils deviennent des enjeux professionnels majeurs, au lieu d'être un questionnement profond. Enfin, je tire une grande généralité là-dedans. Mais la vérité, c'est que c'est très dur d'admettre notre profond défaut d'expertise, alors que pourtant, ce serait vraiment très spécieux de se revendiquer encore comme des gens qui ont une expertise culturelle sur les sujets dont on fait des acquisitions en bibliothèque.
Bah ouais, carrément, ouais.
Et que l'outil principal, et c'est là où je vais faire mon zot débile, mais l'outil principal qui pourrait nous permettre justement à travers ça, par contre, d'être quand même capable d'avoir, malgré des expertises spécifiques, une capacité à essayer de chercher la véracité. Ça va être donc cette fameuse méthode scientifique, en vrai, la démarche qu'il y a derrière. Et en fait, c'est hyper compliqué de naviguer à travers des papiers scientifiques, de voir l'état de l'art de la science sur un sujet, d'essayer aussi là-dessus de faire face à nos propres préjugés. Et ça va très, très vite aussi là-dessus quand même de rentrer dans tout un tas de biais de confirmation quand il s'agit de vérifier ou de ne pas vérifier ce qu'on pense être vrai.
Carrément, carrément. Il ne faut pas oublier qu'on peut se décrire comme étant des professionnels de l'information. On peut avoir une expertise qui est réelle et qui n'est pas du tout imméritée, qui a une grande valeur, une expertise des outils de connaître comment fonctionne une base de données, comment est-ce que l'information elle est cataloguée, indexée, comment est-ce qu'on peut trouver tout ça. On peut être très fort pour ça, mais ça ne remplace pas une expérience sensible finalement de la recherche. Et que même avec des outils de chercheurs, même avec une méthode scientifique, il y a quand même des limites, tu vois, dans ce que tu peux entreprendre. Quand tu t'es pas confronté pour de vrai à de la recherche, tu vois, et je parle même pas forcément d'expérimentation ou de trucs un peu hardcore, mais juste de la recherche bibliographique, chercher de l'information, essayer de construire un argumentaire à partir de plein de trucs. Et encore une fois, hein, c'est pas un truc quotidien pour la majorité de nos activités. C'est quand même difficile d'aller se placer sur ce terrain-là, quoi, de se sentir à l'aise et encore plus légitime, quoi.
En plus, là-dessus, on lâche des gros fions sur les collègues, mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais été formé pour le faire non plus.
Ben, c'est ça.
C'est assez légitime au final.
T'as raison, lâchons des gros fions sur les formations.
Alors, un autre truc que je trouverais intéressant, ça pose toujours la question, tout ce qu'on dit, être humble. Être humble, ça veut dire quoi ?
Ça va me permettre de raccrocher avec ce que tu disais juste avant, histoire de balancer juste une saloperie avant qu'on passe à autre chose. Mais l'humilité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on a identifié que l'EMI, c'était un enjeu et que l'information, c'était un enjeu, etc., t'as tous les documentalistes qui nous ont regardé passer en courant à 2 minutes pour répondre à tous les appels à projets sur l'EMI. Et en fait, il y a les ludothécaires qui ont eu le petit souvenir et la petite larme qui a coulé, pareil, quand on s'est mis à faire du jeu vidéo et du jeu et où on a juste cramé la priorité à d'autres professions qui avaient ça dans leur mission avant. Donc, il y a une vraie humilité de notre part qui est de dire « Non, c'est pour moi, ok, c'est mon sujet, j'y vais !»
C'est clair. C'est clair. Et ouais, il y a vraiment ça en plus du bibliothécaire qui est de tous les combats, mais surtout quand il faut arriver 30 ans après, quoi.
Il faut arriver 30 ans après avec toujours la bonne excuse, quoi.
Mais par exemple, je suis convaincu que clairement, dans 4 ans, on aura construit notre discours critique sur l'IA après 4 ateliers fémumuse et construit un polygone gentil qui fait bonjour à des enfants, tu vois.
Et tout ça dans 4 ans, quand la moitié des serveurs seront tombés parce qu'on sera en semi-effondrement à plus 12 degrés. Ouais, c'est bien. On sera le sens du timing, quoi.
Avec la chance inouïe de se dire que là, on tient le sujet vraiment à la mode, qu'on est dessus, qu'on va être soudain professionnel vibrant, qui s'empare d'un enjeu de société majeur. Non pas parce que on s'en empare au moment où il arrive, mais parce qu'on s'en empare au moment où nous, personne, on commence à en voir les ricochets dans la société et on fait le lien entre ce que ça peut vouloir dire pour notre pratique professionnelle. Mais qu'en bibliothèque, en fait, c'est très, très rare d'avoir un discours qui apparaît au moment d'une nouvelle méthode qui va, par exemple, se dire « tel truc arrive, quel impact pour les bibliothèques ?» Des choses, par contre, que tu auras bien évidemment quand tu vas être dans le champ de l'école, par exemple. Pour le pire et pour le meilleur, d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est vrai que les bibliothécaires, on est souvent un peu ces fameux laissés pour compte là-dessus des discours critiques autour des documents et des sujets de société, et que ça demande, je pense, vachement d'avoir en fait des initiatives personnelles pour être à la pointe sur ces choses-là. Ce qui fait que du coup, tu vas avoir quelques collègues qui partent en solitude dans le désert, en moine soldat, sur des sujets et qui vont passer pour des fous furieux 5 ans avant tout le monde, qui d'ailleurs parfois vont le devenir parce que c'est pas le truc le plus simple de hurler dans un désert.
Il y a carrément ça. Et puis, pour être un peu moins sur le dos des collègues, tu vois, mais il y a aussi le fait qu'on évolue dans des systèmes qui sont extrêmement contraints, qui sont les systèmes de tutelle dans lesquels on est tous coincés les uns et les autres, et qui font qu'il y a une valorisation de tel ou tel aspect, de tel ou tel buzzword à la con, tu vois, là en ce moment, c'est l'IA, donc du coup, il faut s'inscrire dans ce truc-là, parce que si on veut avoir des crédits, si on veut avoir un peu de reconnaissance, si on veut qu'on nous lâche un peu les basques pour tel ou tel truc, donc pour les meilleures raisons de la Terre, hein, c'est juste pour pouvoir continuer à exister, il faut qu'on saute en permanence dans tel ou tel cerceau, et donc dans tel ou tel truc de nouveauté pour se dire, ok, alors attends, là, la municipalité, dans son programme, elle avait mis qu'il fallait être absolument sur le côté vivre ensemble. Donc très bien, on va faire du participatif, on va faire du truc, mais attention, hein, il faut que tout soit démontable à la prochaine élection, quand ce sera le Rassemblement National qui sera élu, et où on sera plus du tout dans le vivre ensemble, mais dans le vivre séparé, où là, il faudra qu'on passe un mur au milieu de la bibliothèque. Et voilà, donc il y a un côté un peu cynique qui pue la merde, je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire, et dans le contexte de montée des idées d'extrême droite dans la société aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une lâcheté insupportable là-dessus. Mais il y a aussi une grande lassitude parce que c'est devenu la règle du jeu que de devoir sauter dans tous ces cerceaux qu'on nous tend. Un coup, c'est l'EMI, un coup, c'est l'IA. À chaque fois, c'est un truc différent. Voilà, fatigue.
Et en nous faisant à chaque fois piéger, en fait, par cette carotte qui est que, mon Dieu, mais là, on pourrait servir à quelque chose. Parce que notre métier au quotidien, on peut se retrouver parfois tellement vide, tellement répétitif, en fait, qu'on est dans un besoin d'évocation de sens qui nous pousse à sauter dans tous les trous possibles et inimaginables. Dès qu'on s'imagine qu'on va faire disjoncter quelque chose, qu'on va reprendre du pouvoir, qu'on va amener une vérité. Je pense que ce besoin de profond et permanent de revendiquer cette expertise, cette légitimité, cette connaissance sur un sujet, d'être sur le sujet cool du moment, ça doit aussi nous faire pointer du doigt la faiblesse structurelle, en fait, de notre vision de ce que c'est la bibliothèque au quotidien, dans notre capacité, en fait, de transformation de la société.
Ouais.
Je pense aussi qu'on saute en permanence sur des sujets cool parce qu'on fait souvent le bilan un peu triste qu'on n'est pas capable, avec les outils qu'on a en bibliothèque au quotidien, de faire changer cette société qu'on a pourtant tellement envie de voir évoluer.
En fait, au final, je me demande si tu vois, il n'y aurait pas quelque chose à imaginer si on essaye de ressortir un peu de façon positive, tu vois. C'est que plutôt que de valoriser cette expertise qu'on peine à avoir et qu'on n'aura jamais, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de valoriser, d'essayer de trouver notre équilibre, de trouver ce qu'il nous faut, ce qui pourrait nous compléter dans la joie, tu vois, Et c'est, ça peut sembler très, très débile de dire ça comme ça. Hein. C'est pas, c'est, qu'est-ce que ça veut dire la joie? Mais en fait, non, c'est, ça me semble être important le côté trouver aussi le sens de notre métier. Pas seulement dans l'idée de sauver le monde, mais juste parfois dans l'idée de se marrer avec quelqu'un. Dans l'idée de passer un bon moment. Pas forcément d'avoir ouvert toutes les perspectives incroyables d'un jeune esprit, d'un enfant pour lui doter, le doter de toutes les facultés d'un philosophe grec. Peut-être on s'en bat les steaks de ça. Mais par contre, lui mettre sa pérame au Uno ou à FIFA, ça crée des bons souvenirs. Et ça ne crée pas des bons souvenirs que dans cet enfant que tu vas sauver d'une misère que tu fantasmes, qui n'est sans doute pas là. Mais peut-être que ça peut au moins, toi, t'apporter un truc où tu te dis hey, « j'ai passé un bon moment ». En fait, cette journée, il a fallu ramasser le vomi de Timmy. Il a fallu dire à Madame Michu qu'il fallait qu'elle ramène enfin ses numéros de valeur actuelle qu'elle a empruntés il y a 6 mois et qui sont toujours sur sa carte. Et ce serait vraiment quand même dommage qu'elle les perde.
Mais faut-il vraiment qu'elle les ramène?
Il a fallu gérer tel truc, telle merde, tel truc, répondre à 14 mails de tel groupe de travail à la Mort-Malneux qui n'a aucun sens, etc. Mais il y a eu aussi cette partie de Uno. Avec Jeannette et Jean-Pierre. Et cette partie de Uno, eh ben, elle a fait en sorte d'illuminer un peu ma journée. Elle a fait en sorte que je passe un bon moment.
Et ben, je suis assez convaincu en effet que même si ça pourrait paraître très spécieux, si on était déjà un peu plus heureux au quotidien dans nos pratiques professionnelles, on serait des gens moins snobs, moins atrocement là-dedans, piégés dans notre besoin de légitimisation par le savoir.
T'as raison, ouais. On a fait 2 minutes sans seum, c'était trop.
Je suis désolé, j'ai tout cassé.
Non, mais t'as raison, t'as tellement raison.
Et se dire qu'une des rares boussoles qu'on peut avoir qui soit honnête, c'est notre sens de ce qui nous rend heureux, bah, c'est peut-être une des rares démarches réellement honnêtes qu'on peut faire quand on admet l'absence d'expertise et qu'on admet qu'on n'a pas non plus envie d'avoir la pluralité du racisme dans la bibliothèque.
Ouais.
Parce que bon, du coup, on a quand même dit que la boussole, c'est la joie, et ça me semble hyper important parce que c'est peut-être, on l'a dit, mais une de nos meilleures sources d'honnêteté à la limite. Ouais. Après, au-delà de ça, évidemment, il y a quand même quelques curseurs pour pas non plus produire que de la merde, parce que je pense que se dire simplement qu'on va piloter à la joie, en fait, on n'est pas juste des Marie Kondo, des bibliothèques qui touchent les livres pour savoir ce qui nous amène du plaisir. et que je pense que, et c'est hyper important hein, de se dire que la culture, l'apprentissage, c'est censé être source de plaisir et que si ça n'y est plus, c'est aussi qu'on touche un truc important. Il y a d'autres curseurs.
Ouais, absolument, absolument. Faut se rappeler, c'était un peu l'idée de base, de départ de cet épisode, c'est que bon, faut quand même que collectivement on commence à faire un peu gaffe à ce qu'on met dans les rayons. Il faut peut-être que voilà, les bouquins de platistes on va arrêter. Peut-être que les théories quantico-vibratoires des pierres magiques, ça aussi, il faut peut-être se dire que ça suffit et que. On sait qu'on a tous des profils, en tout cas majoritairement, on a des profils de littéraires, qui n'ont pas de culture scientifique, etc. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Même si on ne sait pas très bien de quoi on parle, on peut double-checker, on peut se donner quelques critères, on peut consulter des collègues, on peut poser des questions. Peut-être aussi aller chercher de l'expertise dans les publics. C'est aussi un truc dont on n'a pas parlé là, mais qui pourrait faire sens. Et quand j'ai des étudiants... des étudiants à qui je fais des cours de recherche doc et tout, on parle de fiabilité de l'information, c'est un truc fondamental évidemment, et un des trucs qui est le plus important à comprendre, c'est que on pourra jamais avoir des fonds qui seront à 100% exempts de saloperies, de conneries. Il y aura toujours un truc qui sera plus bon, qui sera réfuté, où l'auteur, on s'apercevra que tel ou tel auteur ou autrice de ce bouquin, qui pourtant s'est vendu énormément, et ben en fait, il y avait un immense conflit d'intérêts, mais qui a été caché au départ, ou alors que les données ont été manipulées, ou alors que et 12 raisons. Donc, on ne peut pas y arriver à 100% à garantir la fiabilité d'un bordel. Par contre, bah, on peut faire de notre mieux là-dessus. Et faire de notre mieux, c'est quand même bah, laisser de côté l'homéopathie, les fake meds en général et la terre plate, quoi.
Si jamais on se sent un peu embêté dans la question de nos fonds, parce que ça nous renvoie à un truc de « oui, mais est-ce qu'on est des censeurs ou pas ?» Quand bien même on déciderait d'abandonner le champ de la véracité là-dessus, parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette notion, et c'est très légitime, en fait, de ne pas se sentir à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a des outils qui sont assez intéressants. Wikipédia, par exemple, a une posture là-dessus, sur les savoirs controversés, comme on peut les appeler, qui est de se dire, bon, bah là, il y a 1% des gens de ce champ-là qui pensent ça. Un exemple qu'ils avaient pris, par exemple, c'était, alors c'est moins populaire aujourd'hui comme théorie du complot, mais pendant un temps, il y avait vraiment quelques historiens, dont un notamment qui avait un peu de renom, qui pensait que le Moyen-Âge n'existait pas.
Ah mais putain, oui, c'est incroyable.
Et t'avais une espèce de compression, en fait. Certains personnages étaient les mêmes. Je crois que Alexandre le Grand, c'était aussi Gengis Khan. Enfin, je sais plus. Mais concrètement, t'avais vraiment une compression de certains âges de l'univers. Et il en manquait. Du coup, le Moyen-Âge, ça n'existait pas. On était autour de 1500-1600 avec leur calendrier. Ça semble dingue, mais t'avais quand même quelques scientifiques, quelques historiens qui défendaient cette thèse, et du coup ça permet quand même de se dire bah oui, mais du coup on évolue dans un monde d'opinion, est-ce qu'elle devrait pas être présente? Et là-dedans Wikipédia dit bah écoutez, s'il y a 1% des gens de ce corps de métier qui défendent ça, la question ce qu'on va se poser c'est est-ce que si jamais on achetait un bouquin là-dessus, on aurait 1% de notre fonds qui représente ça? Et bah, la vérité, c'est que votre fonds Moyen-Âge à la bibliothèque, si vous avez plus de 12 bouquins dedans, c'est déjà pas mal, en fait. Et que soudain, vous achetez un bouquin chelou dans votre fonds Moyen-Âge, et bah, une opinion ultra minoritaire et chelou, c'est-à-dire 10% de votre fonds. Mmh. Et vu qu'en plus, elle est complètement sulfureuse par rapport à ton bouquin juste scolaro véridique chiant, bah, c'est plutôt celui-là qu'on a emprunté, en fait. Parce qu'il y a fort à parier que sur la couverture, t'es un ange et un démon en train de s'affronter avec des épées. Donc déjà, c'est cool. Et je suis à peu près sûr qu'ils sont pas loin d'inventer le truc où quand t'ouvres la page de garde, t'as une petite musique dramatique en mode vidéo YouTube. Un peu comme les cartes de Noël cringe que t'envoyaient tes grands-parents. Et ça peut être éventuellement quelque chose qui peut nous guider. Se dire que c'est pas tant qu'on se fait le censeur des opinions, mais c'est que cette opinion est trop minoritaire pour avoir du sens dans nos fonds.
Ouais. Il y a, je mettrai dans la description, dans les trucs, parce que je vais pas m'en souvenir tout à fait bien là comme ça, mais il y a une vidéo qui est hyper intéressante sur Wikipédia et sur les différentes épistémologies qui sont présentes dans Wikipédia. Et donc, comment est-ce qu'on définit ce qui est important, ce qui est vrai, ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas. Et ces différents affrontements finalement, de qu'est-ce que c'est que la vérité, ils sont intéressants parce que bah, la frontière, elle n'est pas si facile à tracer en réalité. Et donc, du coup, voilà, ça permet aussi de doser un peu ça. De se dire, ok, peut-être qu'il y a, de la matière pour des théories controversées ou des trucs comme ça, mais faut doser, quoi.
Et puis, je pense que c'est aussi un truc important de se poser cette question de à quel point potentiellement je nuis de ouf. Parce que ta théorie un peu alternative sur les belettes volantes, il y a moyen qu'elle soit moins gênante que tes pierres qui guérissent le cancer ou que convaincre des gens qu'avec une méthode et un CD ils peuvent parler à leur conjoint décédé.
Ouais, mais c'est ça où il faut doser, tu vois.
Et je pense que c'est là aussi qu'on peut faire revenir cette notion là-dedans d'humilité, en fait. Si on sait pas, peut-être que c'est pas notre rôle de proposer ce genre de choses. Peut-être qu'en cas d'incompétence, il faut s'abstenir. Et que cette incompétence, elle n'est pas sale, elle n'est pas critiquable. On ne sera jamais compétent sur tout. Mais mieux vaut une incompétence qui ne s'exprime pas qu'une incompétence active dans la constitution de nos fonds. Je vais faire un truc de bibliothécaire, mais de dingue, un truc qu'on ne fait jamais. Est-ce que tu connais un bouquin qui s'appelle « Le monde selon Dave » ?
Non.
Bah Dave, c'est un chauffeur de taxi new-yorkais, je crois, raciste, misogyne, homophobe, sexy, tout ce que tu veux, tu vois.
Ouais.
Et paf, c'est la fin du monde. Alors, tout éclate.
Oups.
Mais mais Dave, il avait un petit carnet dans son taxi où il consignait ses pensées. Et genre, une des dernières reliques du monde d'avant, c'est ce carnet-là, tu vois, qui fonde une religion. Et les gens tombent sur le carnet de Dave, en fait, et ça devient, puisque c'est quand même les derniers restes du monde d'avant, ça devient des paroles d'évangile, littéralement. Et ben, est-ce que, Julien, toi et moi, on n'est pas en train de créer du savoir, là? Et peut-être dans 50 ans, notre podcast, ce sera un peu le monde selon Dave des bibliothèques. Et genre, on sera étudié par des chercheurs, comme tu sais, la représentation à l'instant T de ce qu'était le monde des bibliothèques.
Jean-Michel, Éléonore, si vous nous écoutez depuis 2072, rappelez-vous, il faut absolument empêcher Gérald Minimus de devenir président de l'ABF.
Et si vous pouvez aussi empêcher Manuel Valls de se présenter aux élections à Osaka, ce serait pas mal. Bisous.